Bonsoir, bonsoir, il est 19h02 et vous êtes sur les Canu Info du vendredi. Alors aujourd'hui, on va rester dans le local parce qu'il s'est passé plein de choses à Lyon cette dernière semaine. Et on va commencer par plusieurs reportages sur toutes les expulsions qu'il y a pu avoir ces deux dernières semaines à Lyon, notamment des camps d'Albanais et de Roms. Puis on viendra sur la manifestation suite au centenaire du génocide arménien. Pour finir, sur les nouvelles de la ruche, un squat mais aussi un jardin partagé à la Croix-Rousse.
Et après, pour terminer sur le traditionnel agenda. Donc tout de suite, on va vous passer un reportage qui va parler des expulsions de squats de campements improvisés. Donc là...
Alors, excusez-nous, un petit problème technique de micro. On va essayer un troisième micro pour voir si ça marche ou pas. Parce que pour l'instant, il n'y a que notre micro de la salle technique qui marche.
Ça marche pas, là ?
Non. Donc, on va essayer... Non, ça marche pas. On va essayer peut-être le micro noir, avec un peu de chance, qui marchera mieux.
Donc là, est-ce qu'on m'entend ?
Non plus. Alors, je vais vous présenter le reportage qu'on va vous passer maintenant. Et pendant le reportage, on essayera de régler nos petits problèmes de micro. Donc, comme vous l'avez peut-être entendu, il y a eu plusieurs expulsions de squats et de campements ces dernières semaines à Lyon. Elles ont été assez nombreuses. En effet, du 10 au 16 avril, c'est à peu près 450 personnes qui ont été expulsés par la police, qui sont maintenant à la rue pour la plupart, sans solution d'hébergement, et qui ont tout perdu puisque leurs habitats ont été détruits par les bulldozers et qu'ils ont dû laisser la majeure partie de leurs effets personnels sur place. Du coup, notre super équipe du Canu Info de l'autre vendredi s'est rendue à la Ligue des droits de l'homme de Lyon, à la LDH, une association qui essaye d'aider les personnes à la rue. Du coup, ces personnes ont discuté avec Claude Massot, qui est le président de la LDH, qui était présent lors de l'expulsion du camp des Roms de Bron le 16 avril. On va tout de suite l'écouter.
Depuis une semaine, on sentait qu'il allait y avoir des évacuations qui allaient se faire, puisque la police était passée plusieurs fois dans les semaines qui ont précédé pour faire des relevés d'identité. Et en même temps, c'est assez classique. Hein. Souvent, la police passe avant, ce qui met une certaine pression sur les gens, et un certain nombre de familles partent d'elles-mêmes. Il y a une chose qu'on a toujours vue, c'est qu'il n'y a jamais de confrontation. Et aussi bien dans le... Alors nous, on n'appelle pas ça les campements, mais le bidonville, ou on l'appelait le village là-bas, à la Boutasse. Les personnes qui étaient sur place, principalement de nationalité roumaine, Roms de nationalité roumaine, évitent la confrontation avec les forces de l'ordre. Donc il n'y a jamais de violence, de violence physique. Il y a de la violence symbolique, mais il n'y a pas de la violence physique. Donc depuis plusieurs semaines, on sentait qu'il allait se passer quelque chose, et ça a commencé donc principalement avec Yves Farge, avec une 150 personnes à peu près, Kellerouville, où c'était des familles roms là-bas, alors qu'Yves Farge était beaucoup plus des familles albanaises, les anciens déboutés du droit d'asile du pont Kitchener. Et on sentait ça monter, ce qui fait que dans la semaine qui a précédé, tous les matins, on était là très tôt le matin, puisque généralement, les interventions se font à partir de 6 heures, d'après l'expérience qu'on avait des années précédentes. Donc jeudi matin, on était là et on a appris par un journaliste que des CRS étaient en place vers le commissariat de Bron, donc que ça pouvait se passer. Et vers 7 heures, à peu près, la police est arrivée. Il y a d'abord eu deux voitures de police nationale et puis une compagnie de CRS qui... Alors c'est assez classique, hein. Les CRS se mettent autour, assurent la... Comment dire ? Il y a un dedans, un dehors, un intérieur, un extérieur, qui est relativement étanche pendant tout le temps de l'opération. Donc, à l'intérieur, il y a les familles, plus quelques personnes bénévoles qui les ont aidés. Et à l'extérieur, des bénévoles, des journalistes, des passants, toute la circulation qui était à certains moments un peu perturbée, qui était là. Et en peu de temps, les familles ont ramassé leurs affaires. C'est toujours pareil, c'est-à-dire ils prennent.
Ils le savent en fait.
C'est dans l'air. On le sent d'ailleurs. Ça, c'est dur d'ailleurs. Il y a une pression.
C'est pas d'affrontement vraiment. Ils le savent. Ils prennent leurs affaires.
Voilà, ils prennent. Ils sont sortis pour la presque tous donc sortis par devant. Là, parce que vous avez vu là, à l'entrée, et ils se sont mis devant avec généralement ils ont des poussettes, tout ce qu'ils peuvent pour entasser les maigres biens qu'ils ont pu accumuler, hein, donc qui soit des matelas, de quoi faire un peu la cuisine, mais en même temps en abandonnant énormément de choses, hein, énormément de biens. Et
ce qu'ils emportent comment le reste, ce qu'ils n'abandonnent pas, comment ils peuvent le remporter?
Il n'est pas assez pas remporté le reste. Le reste c'est ramassé. Normalement, il y a une loi là-dessus. Il y a un huissier. Il y a toujours un huissier qui intervient. Hein, donc il faut rappeler que c'est à la demande de ce qui est aujourd'hui la métropole, hein, que cette évacuation s'est faite dans un endroit qui ne gênait absolument personne, parce que c'est ce qu'on appelle un délaissé de voirie. C'est ces machins un peu triangulaires qui sont entre là qui est entre le mur du Vinatier et puis la bretelle d'accès au périphérique, et les habitations à côté sont relativement loin. Il n'y a pas de maison qui est à côté, donc plein de voisins, non. Il y a des gens qui passent, c'est vrai, il y a le tram, il y a, pour les yeux, c'est peut-être gênant pour certaines personnes, mais il n'y a pas de gêne qui était dû à cette présence. Et donc, sur ce terrain, donc, ils étaient devant, et comme toujours, après, ils partent. Alors, certains sont partis un petit peu vers Lyon, mais la plupart sont partis de l'autre côté vers Bron, vers la mairie de Bron. Et à ce moment-là, il s'était mis à pleuvoir, il devait être environ 9h30, et comme il pleuvait, ils se sont mis sous le pont du périphérique. Et là, il y avait certains voulaient aller à la mairie. Enfin, je ne sais pas exactement. Moi, je suis parti à ce moment-là. J'avais une autre intervention à faire. Et ce qui se passe après, ben, c'est toujours pareil. Certaines familles ont des connaissances dans d'autres villages, dans d'autres bidonvilles. Certaines familles étaient déjà parties pour rentrer en Roumanie. Et puis d'autres errent dans la ville, un peu, recherchent quelque chose. Et selon les cas, il y a une année, pendant une journée, une nuit, ils ont été traqués. La police nationale et les polices municipales les empêchaient de s'arrêter.
D'accord, donc, les traquer après pour les emmener où, du coup?
Ah, mais pour les empêcher de s'arrêter, c'était ça. Il y avait
s'arrêter. Ça. Du coup, ils sont condamnés à errer, à marcher.
Ça avait été le cas.
Bon. On les renvoie pas en Roumanie, il n'y a pas
les charters
comme
poster. Alors, les charters, c'est pas c'est ce qu'on pourrait appeler des charters pour la Roumanie, ça a été les. C'était jusqu'à il y a un an et demi à peu près, où il y avait la prime de retour, et il y avait des autocars qui partaient, enfin un autocar à chaque fois qui partait du Quai Perrache, c'est-à-dire pas loin, c'est là-bas, là, du Quai Perrache, où il y a des fois la foire, la fête foraine, et qui les emmenait à Saint-Olas, à Saint-Exupéry, et de là, un avion pour Bucarest, avec la prime de retour qui leur était donnée par l'Office français pour l'immigration et l'intégration. Mais ça c'est fini pour l'instant. Certaines personnes sont expulsées, certains Roumains sont expulsés sur la base d'une obligation de quitter le territoire qui leur a été délivrée avant. C'est pour ça d'ailleurs que la police passe plusieurs fois, parce que aujourd'hui, pour expulser un Européen, il faut prouver qu'il ait commis un délit, soit qu'il ait une charge pour la société. Et pour ça, il faut un délai de 3 mois. Donc là, puisqu'on peut, n'importe qui peut aller dans un autre pays en Europe et rester 3 mois sans souci. Donc quand la police fait un contrôle, ça donne une date. Ça donne une date à tel jour, cette personne était là. Donc si un peu plus de 3 mois après, elle est encore là, et on considère donc qu'elle était une charge pour la société, on peut lui délivrer une obligation de quitter le territoire. Enfin, la préfecture peut faire ça. Alors qu'en France, on a y a des lois sur ce qui est appelé la détresse pour des gens qui se retrouvent dans la rue, dans des situations de détresse psychologique, matérielle, le code de la famille, et sociale à des articles qui stipulent que dans ces cas-là, on doit fournir un hébergement à ces gens. Si on prend les bidonvilles, qui sont principalement dans lesquels on va trouver principalement des Roumains à Lyon, des Roumains de Rome, il y a la circulaire du 26 août 2012 qui stipule que les pouvoirs publics doivent, lorsqu'il y a une évacuation, doivent en amont, c'est-à-dire avant, rechercher des solutions, voir les associations pour faire en sorte que on propose des hébergements aux personnes qui vont être évacuées.
Alors que là, c'est pas le cas pour toutes les personnes qui ont été mises à la rue.
Non, c'est actuellement la règle d'ailleurs est devenue beaucoup plus sévère qu'elle l'était il y a quelques années. Maintenant, il faut être soit gravement malade, prêt à mourir, ou bien avoir un enfant de moins de 1 an. C'est les critères qu'on entend régulièrement, qui sont mis en avant pour quelques familles, pour les loger à l'hôtel quelques jours ou quelques semaines, ou leur trouver un hébergement. Alors, des solutions. Les réponses qui sont faites sont des réponses locales. C'est-à-dire que, alors que la préfecture, il y a 3 ans maintenant, avait lancé le plan Ondatou, la préfecture, c'est-à-dire l'État a fait quelque chose. L'État a fait appel à des fonds européens qui existent pour gérer la situation des populations roms en Europe, a fait appel à ça pour en prendre 400 et, à l'époque, en les sortant du droit commun, leur fournir un logement, un hébergement, une autorisation de travail, et un titre de séjour. À mon avis, ça a relativement bien marché, même si on peut critiquer un certain nombre de choses qui ont été faites. L'État a prouvé qu'on pouvait faire des choses. 400 sur, à l'époque, sur 1500 à peu près, ça faisait le quart. C'était déjà bien, parce que ça en fait 400 de moins dont il faut s'occuper. Pour les associations, pour les bénévoles qui les suivent. Donc c'était bien. Mais dans d'autres endroits en France, qui sont pas nombreux mais qui existent, ce sont des communes ou des départements qui ont eu des initiatives pour loger, non pas sans famille, mais pour loger dans telle commune qui a 5 familles, ailleurs pareil. Parce qu'il est vrai que, quand vous avez 500 personnes au même endroit, vivant dans des conditions très difficiles, c'est un problème. On peut tous le reconnaître, c'est des conditions très difficiles. Les enfants qui marchent dans la boue alors qu'il y a des morceaux de métal qui traînent, enfin c'est terrible à voir. Mais quelques familles par commune, c'est rien, ça s'absorbe très facilement. Mais dans le Grand Lyon, dans ce qui est aujourd'hui la métropole, il y a un refus général. On avait demandé au préfet il y a quelques années de pouvoir réunir tous les maires et de leur dire, voilà, vous partagez un peu les familles qui sont là. Et une des réponses qui nous avait été faite, c'était, mais vous ne vous rendez pas compte, ils vont s'entretuer si on les réunit sur cette question-là, les maires. Et rien n'est fait, les communes sont très réticentes à mutualiser un petit peu cette charge que peut représenter les 1500 personnes actuellement qui sont à Lyon, qui, si on les répartissait sur les 59 communes dans la métropole, bon, il suffit de faire la division, faire un prorata peut-être en fonction des populations et demander à chacun de se prendre quelques familles pour les accompagner. Mais ça, il y a un refus.
Concrètement, c'est combien de personnes qui ont été virées là sur Bron et
Bron, c'est 60 adultes et 53 enfants.
D'accord. On parle de 100 personnes des fois sur Internet.
Ce sont les chiffres de la police. Moi, je les tiens d'un gradé de la police nationale ou CRS, je me rappelle, lui qui est passé à côté de moi et qui a donné les chiffres à une autre personne. Donc ça faisait 113. Ça faisait 113 ce matin-là.
Mais c'était le plus gros camp de Rome de Bron.
Oui, à Bron, je crois qu'il y en a un autre. Il y a des petits.
Non, pas de Bron, de Lyon, de l'agglomération Lyon.
Ah non, il y a Vaux-en-Velin aussi. Vaux-en-Velin est important. Mais là, 113, ça veut dire que réellement, quand il y avait toutes les familles, c'était plus de 200 personnes. D'accord. On voit bien les cabanes, il y avait. Moi, j'ai compté une fois, j'avais compté entre 50 et 60 au plus fort du nombre de cabanes. Donc vous multipliez par 4, vous avez il y a des familles stricto sensu à deux, mais il y en a où il y a plus d'enfants. Donc c'était 250 personnes à peu près qui étaient là-bas.
250 personnes. Et vous savez combien de personnes en tout ont été expulsées là durant ce mois d'avril ?
Bah là, je dis 113 ce matin-là à Bon, 150 à peu près à Gerland. Quai d'Herbouville, je ne me rappelle plus le chiffre, mais bon, enfin là.
Des centaines de personnes.
Ah oui, ça fait. D'un seul coup, on est passé à peut-être, je ne sais pas aujourd'hui pour mesurer, mais on est passé de entre 1000 et 1500 à 1500 à 2000 personnes dans la rue qui sont à Lyon, enfin dans le Grand Lyon.
Moi, je suis là parce que.
Alors, du coup, après ce reportage fait au sein de l'association La Ligue des droits de l'homme il y a quelques jours, il s'est passé aujourd'hui, vendredi 24 avril à 12h30, un rassemblement avec notamment les familles qui habitaient précédemment à Ifarge et qui sont allées du coup devant chez Monsieur le Préfet pour réclamer à ce que des logements soient enfin donnés à ces familles à la rue. Il faut savoir que du coup le crieur public qui sévit à la Guillotière tous les jeudis soirs à 18h place Mazagran s'est un peu emparé de toutes ces histoires des expulsions et après une grève la semaine dernière vis-à-vis des expulsions a aussi crié aujourd'hui à midi devant la préfecture. On avait un enregistrement de la lettre qu'il a pu lire qu'on a perdu puisque visiblement ce Canu Info aujourd'hui a des problèmes techniques, mais on va quand même essayer de vous faire un point sur ces expulsions et vous passer quelques témoignages qu'on a pu faire à la manifestation d'aujourd'hui, enfin, au rassemblement d'aujourd'hui, qui quand même rassemblait de 200 à 300 personnes, ce qui est pas mal de monde. Donc finalement, depuis que l'expulsion de Yves Farge a eu lieu du coup mardi matin, le crieur public nous a dit que lui, par exemple, il n'en était pas très fier, que c'était la première fois qu'il assistait à ça, que des flics en quantité industrielle payaient avec les impôts d'une partie de la population en période d'austérité, et donc pour venir réveiller à coups de bottes dans les portes du petit matin 150 personnes qui vivent dans la misère pour les mettre dehors d'un lieu qui ne sert finalement ni à rien ni à personne sans leur proposer aucune solution. Et donc tout ça au nom de l'insalubrité des lieux, comble du mépris. Faut savoir qu'il y a déjà eu une expulsion vendredi dernier cours d'Herbouville et que là c'était plus de 40 personnes qui ont été mises à la rue et une autre à Vénissieux où 70 personnes ont été mises à la rue la semaine dernière et finalement c'est le camp de Boutas à Bron qui a été expulsé comme vous l'avez entendu dans le reportage précédent, ce qui a mis entre 150 et 200 personnes à la rue. Ou plus exactement, en fait, pendant un certain temps sous un pont, ils ont été délogés par les flics et maintenant ne savent plus vraiment où aller. Et tout le monde sait que ça va continuer, autant de gens qui s'ajoutent aux 1500 personnes qui déjà, à la fin de la trêve hivernale, appellent le 115 tous les jours sans trouver de solution et qui doivent dormir dehors. Finalement, on sait un peu qui va être le responsable de toutes ces expulsions, qui est bien connu et des services de police et de nous-mêmes, qui a un nom et une adresse, qui est donc le nouveau préfet depuis le 1er avril, Michel Delpuech, qui est le nouvel occupant donc des salons de la préfecture du Rhône. En attendant qu'on le mette hors d'état de nuire, ce qu'on espère, ça ne serait tardé, celles et ceux d'Ifarge, du coup, qui habitaient dans des camps assez précaires jusqu'à dernièrement, ont d'abord été dans un gymnase vers Fourvière pour aujourd'hui être hébergés à Décines dans des conditions toujours très précaires, loin de tout et surtout de nourriture. On les a vus déambuler plusieurs fois pour rejoindre Fourvière. Il faut savoir que le moment où ils sont passés du gymnase de Fourvière aux locaux qui ont été attribués par certaines associations à Décines, du coup, c'est les 150 personnes qui ont fait le trajet entre Fourvière et Décines que les TCL et les CRS, enfin les flics nationaux ou municipaux, je ne sais plus, étaient là pour les accueillir, qui ont essayé d'empêcher du coup cette mini transhumance et que c'est toujours entouré de flics et de répression que les Albanais, Roumains ou autres personnes stigmatisées à Lyon comme ailleurs essayent de trouver un logement. Donc on était à ce rassemblement à 12h30 devant la préfecture aujourd'hui et on va vous passer pour commencer un mini témoignage du MRAP qui essaye donc de lutter contre ces expulsions. Alors, comme vous l'avez compris, en ce moment, j'ai des problèmes avec la technique, mais je vais normalement réussir à vous le passer maintenant.
Je suis là parce que le MRAP a aidé une centaine de personnes à déposer des recours contre le préfet suite aux expulsions de la semaine dernière. Donc on a fait ça avec des familles qui ont été expulsées du quai d'Herbouville, avec des familles qui ont été expulsées du bâtiment boulevard Ifarge et qui sont là, et puis avec des familles qui ont été expulsées du bidonville de Bron également. La démarche juridique, c'est il y a un peu deux situations un peu différentes. Pour les demandeurs d'asile, en tout cas ceux qui sont là, c'est de dire l'État a une obligation de vous loger tant que vous n'avez pas la réponse de l'OFPRA, ce que l'État ne fait pas. Donc, très curieusement, depuis que l'avocat a envoyé le fax à la préfecture et à Forum Réfugiés en prévenant de l'assignation, les hébergements tombent, miraculeusement.
Ça veut dire que là, les gens, ils vont être logés ? Non.
Ça veut dire que les gens qui sont en attente d'une réponse OFPRA et qui devraient être hébergés par l'État sont en train d'être logés. Oui, tout à fait.
Donc c'est un rassemblement qui a lieu en soutien aux gens qui ont été expulsés la semaine dernière de squat, et d'autre part à plusieurs familles en demande de réfugiés qui sont en cours de demande d'asile, qui aussi ont été expulsés ou sont dehors pour d'autres, enfin qui n'étaient pas forcément dans ces squats mais qui étaient déjà dehors. Donc on est là pour soutenir les démarches d'hébergement de gens qui se retrouvent à la rue. Donc il y a en fait les gens qui sont en demande d'asile, qui sont par exemple déboutés, la préfecture ne met pas les moyens pour les héberger pendant l'hiver ou même en dehors de la période qu'on appelle la trêve hivernale. Et donc c'est des gens qui se retrouvent dehors, et souvent des familles, alors que leurs enfants sont scolarisés. Et d'autre part, il y a des gens qui sont dans les différents squats tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir un logement et qu'ils ne sont pas hébergés par la préfecture, alors que la loi, normalement, prévoit qu'il y a des hébergements d'urgence de mis en place.
Et si des gens veulent se mobiliser par rapport à ça, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ?
Donc il y a un collectif qui s'appelle Jamais sans toi, qu'on trouve sur les réseaux sociaux, sur Internet. Un autre collectif qui est plus en lien avec les écoles, avec une liste de diffusion qui s'appelle École Logement 69. Et sinon, s'il y a des écoles mobilisées à côté de là où les gens habitent, ils peuvent se rapprocher des collectifs qu'il y a autour de plein d'écoles de Lyon. Il y a une quinzaine d'écoles qui sont concernées par le sujet.
Du coup, après une personne du MRAP, on a pu attendre une personne de Jamais sans toi qui vous expliquait comment vous mobiliser si vous le voulez. Donc vous pouvez toujours aller sur les réseaux sociaux. Sur Rebellion, par exemple, vous pouvez trouver dans les multiples articles qui parlent des expulsions, notamment si vous tapez Jamais sans toi ou classe, des contacts, et notamment aussi tous les rendez-vous de rassemblement et ou manifestations et ou expulsions auxquels vous pouvez bien entendu vous rendre pour soutenir ces populations. Alors après avoir entendu plusieurs personnes représentantes des associations, on a réussi à faire quelques interviews de personnes expulsées. Alors il faut savoir que c'est pas forcément facile parce que tout le monde parle pas français, et comme le rassemblement était à 12h30, on n'a pas eu le temps de faire de traduction, donc c'était pas forcément facile de trouver des personnes à interviewer. Mais on va vous passer du coup deux petits témoignages de 2 minutes 30 et de 1 minute 40 des Albanais qui sont fait expulser ces deux dernières semaines.
À Dessines.
À Dessines. Et t'étais où avant ?
J'étais dans le gymnase d'une lycée. Et maintenant on est passé à Dessines pour un mois, et après on ne sait pas on fait quoi. Nous sommes dans une salle, je ne sais pas c'était comment, mais c'était avec le bureau. Oh, mais c'est trop dur pour rester là-bas.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a des gens qui font des petits conflits. Et pour nous, pour les enfants, c'est pas bien parce qu'ils pleurent. Il y a les enfants qui pleurent et qui...
Et vous êtes beaucoup d'enfants ?
Ouais, on est plus que 30.
D'accord. Et vous faites quoi la journée du coup ?
On joue avec les gens qui viennent de Navoir et tout. On joue cartes et tout.
Et toi, tu voudrais habiter où ?
Je voudrais habiter dans... je voudrais habiter dans mon pays, mais c'est dur pour aller là-bas. Et on est venu ici en France pour rester plus mieux. Parce que là-bas, c'est trop dur pour habiter.
C'est quoi ton pays ?
Albanie.
Il y a des trucs que tu voudrais dire à la radio ?
Ah ouais, ben moi je...
À qui ?
À la radio, que les gens les entendent.
Oh, je voudrais dire à la radio parce que c'est trop dur pour rester dans nos associations. Et... J'ai dit à préfet aussi, il faut pas laisser les gens comme ça. Si on s'inscrit dans cette ville, il faut chercher une maison aussi.
Arriver ici juste parce que tout Albanais ici, toute pas maison, et après tout reste 2 ans, 3 ans, toute pas maison, et après nous habitons à Berthelou, et après il est arrivé à la police et tout dit, tout sorti, ça marche pas pour rester là, et après l'église. Comme ça. Avant, je reste à Rouen tous les jours, comme ça. Tout. Je veux juste une maison.
C'est ça. C'est pas une grande chose, juste une maison, une petite chambre. J'ai entré là, dormi, j'ai fait quelque chose, j'ai fait une bonne douche, comme ça. Parce que la maison qui partit là, il n'y a pas de douche comme ça, toujours.
Juste albanais, tu restes comme c'est chiant. T'as vu, pas maison, pas rien, rien. C'est un mini-clutonship d'art, c'est un Venice-Gourde, pour nous, un Venice-Gourde.
Les présidents d'Albanie, ils ont dit qu'il faut retourner tous les Albanais parce que l'Albanie, c'est un pays sûr, mais c'est pas vrai. L'Albanie, il y a toujours des conflits avec les autres, il y a toujours de. Et toujours il tue des gens et tout.
Elle veut
les gens juste pour voter pour lui.
Et voilà, du coup, c'était un petit reportage qu'on a essayé de vous faire assez rapidement de rassemblement qui s'est passé aujourd'hui devant la préfecture à 12h30. Et dans la continuité, on va écouter une chanson d'Yves Jamais, Il y en a qui ?
Soit la mienne de paye, j'en ai besoin pour bouffer. Je fais des trous dans ma ceinture, un par jour pour mieux gérer le minimum que cette enflure se croit obligée de me céder. Y'en a qui seront jamais dans la merde, y'en a qui auront jamais de problème, et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirigent et qui nous gouvernent. Je le croise devant l'usine, dans sa belle BMW, dans sa Porsche ou bien son Alpine, suivant ce qui l'a motivé. Moi je garde mon bel homme, depuis qu'ils ont décidé, afin de relancer le marché de l'auto, d'interdire aux poubelles de rouler. Il a les fringues, toujours impec, les mains propres et jamais tachées. Moi mes paluches je bosse avec, et mes neurones sont élimés. Y'en a qui seront jamais dans la merde, y'en a qui auront jamais de problème, Et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirigent et qui nous gouvernent. Il a des potes en politique, des plantes grasses à arroser, de celles qui jamais ne lui piquent, qu'auront le cœur de son chéquier. Ils ont le cumul sympathique de maire et de député. Ils ont la morale cathodique et le chômage suranné. Peu importe l'ascenseur qu'ils aiment à se renvoyer. Peu importe, puisque l'erreur, c'est qu'on est trop dans l'escalier. Y'en a qui seront jamais dans la merde, y'en a qui auront jamais de problème. Et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirigent et qui nous gouvernent.
Alors, on est toujours sur le 102.2 à Radio Canu. Alors, tout d'abord, je vais faire une petite dédicace à Walid, Salah et ses brailles cimentantes parce qu'ils n'aiment pas trop la musique classique. Alors, j'espère qu'ils ont aimé cette chanson, s'ils écoutent. Et maintenant, on va accueillir Arthur et Louisa de La Ruche. Alors, c'est toujours dans notre thématique Canu Info sur les expulsions, entre autres. Et alors, La Ruche est un lieu qui est sur Lyon. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer ce que c'est un peu La Ruche ?
Oui, bonjour. Donc, La Ruche, c'est une bâtisse qui a été occupée il y a un an sur les pentes de la Croix-Rousse. Donc, ça a été occupé le 1er mai. Donc, en fait, bientôt notre anniversaire, ce qui est très rare d'ailleurs pour les squats. Donc, déjà, c'est une réussite. Donc, commençons par des nouvelles positives. Et donc, c'est un lieu qui se voulait un lieu de rencontre, de culture, donc ouvert à des ateliers, des spectacles, des moments partagés pour les habitants du quartier. Donc, à l'origine, pendant les premiers 3 mois, on a mis en place régulièrement des cours, donc des yoga, des chants, des langues, des cours de création de meubles en palette, des expositions, des spectacles, etc. Et après 3 mois, on a eu un arrêté municipal, ce qui fait qu'on a dû arrêter nos activités. Par contre, les habitants du quartier, le 28 février, donc suite à l'engouement provoqué par cette occupation, ont décidé d'occuper un jardin qui est donc situé tout autour de la bâtisse.
Ça se situe où tout ça?
Ça se situe au 33 bis rue du Bon Pasteur.
D'accord, à Croix-Rousse.
À Croix-Rousse, donc à côté de l'esplanade. Les jardins, donc il a été occupé par les voisins qui ont été un peu pris par l'engouement de ce projet. J'ai oublié de dire.
Parce que du coup, c'est un peu les habitants et les habitantes qui venaient aux ateliers et aux animations que vous faisiez.
Voilà. C'est beaucoup de riverains qui participaient aux activités organisées par l'association La Ruche, qui est l'association qui gère la maison, qui est une association collégiale. Et donc c'est beaucoup de personnes qui venaient à ces activités quand il y a eu l'interdiction de recevoir du public de la part de la mairie, qui se sont retrouvés un petit peu sans rien faire, un petit peu désœuvrés. Et donc devant le refus de la ville de Lyon de d'ouvrir le dialogue avec l'association. Ils ont monté un collectif donc avec tous les gens du quartier et ont décidé d'envahir donc cette friche, puisqu'au départ c'est une friche, ça fait 20 ans qu'elle était laissée à l'abandon. Donc c'est une immense friche qui fait 1700 m². Donc c'est une sorte de poumon vert en ville, puisque c'est très rare des espaces de cette taille-là qui soient verts et qui soient inutilisés. Et du coup, oui, c'est les habitants et les riverains du quartier qui ont investi d'eux-mêmes la friche.
Il faut peut-être ajouter que dès le départ, donc l'association La Ruche, elle souhaitait avoir une convention d'occupation sur les lieux, car il n'y avait pas le projet il y avait le projet de pérenniser donc cette expérience, donc de demander que tant que la ville n'a pas de projet défini sur ces parcelles, hein, parce qu'il s'agit de plusieurs parcelles, donc à la fois plusieurs parcelles pour la maison et pour le terrain, donc de pouvoir les utiliser, parce que c'est dommage de laisser les lieux à l'abandon.
Voilà, donc ça représente un assez gros périmètre, une assez grosse surface quand même, puisqu'on a donc la maison au centre, au centre de la friche, donc avec 300 m² d'espace pour accueillir des activités, donc 300 m² qui sont inactifs depuis l'arrêté municipal, et autour donc 1700 m² de jardin. Donc c'est vraiment un espace énorme. Le tout appartient à la ville de Lyon, qui a racheté l'ensemble il y a quelques années. Et donc voilà, pour l'instant, au début la ville de Lyon voulait en faire un parking et a décidé d'abandonner le projet, et donc on sait qu'il n'y aura rien de construit et aucun projet sur ces espaces d'ici la révision du plan d'urbanisme, donc qui aura lieu fin 2016, puisqu'ils ont encore repoussé la révision du plan d'urbanisme, donc fin 2016 révision du plan d'urbanisme, et donc révision du plan d'urbanisme du fin 2016, et voilà, et après les travaux commenceront qu'en 2018-2019. Donc ces espaces vont pas être utilisés jusqu'à 2018-2019. Voilà, et ça n'empêche pas la ville de Lyon de vouloir expulser l'ensemble des parcelles qui sont occupées par les habitants du quartier.
Donc depuis le départ, on a essayé de mener un dialogue avec la ville de Lyon. On a eu très peu de réponses, presque aucune. Donc la première réponse a été une convocation au tribunal pour décider de l'expulsion du lieu. Ensuite, on a eu, la seule réponse écrite qu'on a eue venait de l'adjointe au patrimoine, qui nous disait que la maison était en danger. Or, il se trouve qu'on avait des documents qui nous avaient été fournis justement au moment de la convocation au tribunal, qui disait que la maison n'était pas du tout dangereuse. Donc on lui a répondu, et à chaque argument qu'elle avançait dans sa lettre, nous on a su répondre. On n'a pas eu de réponse à notre lettre. Donc il y a vraiment aucun dialogue qui a été possible jusqu'à maintenant. Entre-temps, donc, suite à l'occupation du jardin, il a été mené une procédure aussi d'expulsion du jardin, seulement que il y a eu aussi une erreur de leur part. Ils ont mené la procédure d'expulsion que sur une des parcelles qui constituent le jardin, ce qui fait qu'il y a encore deux parcelles qui sont actives, où on peut venir jardiner, faire des activités. Et entre-temps, il y a vraiment un mouvement, quelque chose qui s'est créé au sein du quartier. C'est pourquoi on est en train de préparer une série d'actions, donc, auxquelles on va vous inviter. Est-ce que tu veux en parler?
Et c'est combien de personnes à peu près qui sont mobilisées autour du projet de la ruche et du jardin?
Alors, on va dire que le noyau dur, ça représente à peu près 50-60 personnes. Mais après, il y a énormément de gens qui gravitent autour. Donc voilà, quand il y a des événements qui sont organisés sur le jardin, ou avant, quand il y avait des activités à l'intérieur de la ruche, je pense qu'on était autour de 300-400 électrons, quoi. 300-400 personnes, sachant que le noyau, qui est de 50-60 personnes, il est composé vraiment de toutes les classes d'âge, de toutes les catégories sociales. Voilà, c'est vraiment très mixte, c'est vraiment tous les gens du quartier qui viennent. Et donc je pense qu'il y a pas de, ça va de des enfants qui ont 5-6 ans aux gens qui ont 80-90 ans qui viennent. Donc c'est, voilà, vraiment on a toute la palette représentative du quartier qui participe et qui s'investit sur ces espaces.
Mais du coup, quand vous dites jardin, c'est un potager. Enfin, il y a des...
Oui, c'est un potager. Non, c'est un potager et un jardin, puisqu'il y a, ouais. Il y a des espaces potagers, puisque c'est 1700 m2, c'est immense. Donc, comme c'était en friche, on n'a pas encore eu le temps de tout aménager, surtout que, comme on a dit, la ville a expulsé la moitié du jardin, et heureusement que la ville s'est gourée dans sa procédure, sinon elle aurait tout expulsé. Elle aurait tout expulsé d'un coup. Voilà, donc il y a des espaces potagers, il y a des espaces jardins, balades, et il y a aussi des espaces qui sont terrassés, donc qui dans la friche, donc qui servent plus d'espaces, on va dire, de guinguettes et de rencontres, voilà, de lieux d'événements.
L'idée pour les jardins comme pour la maison, c'est pas de faire simplement un jardin ou une salle de spectacle, mais vraiment des lieux d'expérimentation à la fois sociale, culturelle, artistique. Donc les jardins, c'est pas simplement un jardin, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu où des artistes peuvent se produire. Et à l'inverse, la maison, c'est pas simplement une maison de rencontre associative, mais c'est aussi un lieu où des ateliers qui peuvent se réaliser dans le jardin, enfin, par exemple construction de meubles en palette ou des choses de ce type, peuvent se préparer. Donc il n'y a pas... voilà, l'idée, c'est pas de cloisonner les choses. La ruche, c'est vraiment un projet où on essaye de mettre en relation, donc mettre en relation des associations qui travaillent dans tout ce qui est alternatif et des personnes. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment axé sur tout ce qui est partage de savoir, rencontre.
Et comment vous avez fait au début pour impliquer les habitants? Vous avez fait des repas de quartier, des réunions? Comment vous avez fait pour que ça réussisse, cette mixité un peu de plein de mondes différents?
Alors, faut dire que la rue du Bon Pasteur est une rue un petit peu morte où il n'y a rien qui se passe. Et donc, il nous a fallu, juste en ouvrant les portes de la maison, en fait, et comme c'est un lieu qui est assez extraordinaire, bah, les gens sont rentrés, sont venus visiter et voilà, ça s'est fait presque tout seul. Voilà. Avec au bout d'un petit moment, peut-être quelques tracts dans les boîtes aux lettres, mais vraiment rien de... Voilà, on a dû le faire une ou deux fois et puis la machine s'est lancée toute seule. Donc il y avait déjà sûrement un terreau qui attendait juste une initiative dans ce genre-là.
Oui, ça s'est fait vraiment par les bouches à oreilles et il se trouve en plus que les personnes du quartier ont été... très sensible au projet dès le départ, en tout cas la majorité des personnes qui habitent dans le quartier, ce qui a quand même aidé donc, dans ce sens.
Et vous saviez depuis combien de temps elle était vide, cette maison?
Oui, donc elle était abandonnée depuis 3 ans. Ça a été acheté par la ville il y a 2 ans et il n'y a pas de projet encore pendant les prochains 3 ans, sûrement, même plus, très probablement. Donc...
D'accord, ils l'ont acheté pour faire un parking, après ils se sont dit, ah oh bah non.
Voilà.
Il faut savoir que c'est déjà un terrain qui a une histoire, au niveau, des habitants du quartier, puisqu'il y a, donc, il y a 20 ans, donc en 93 et 94, il y avait un immense projet immobilier sur tout cet espace, et donc les gens du quartier se sont battus, et donc le propriétaire, l'ancien propriétaire de la maison où nous sommes a refusé de vendre, donc c'était une filiale du Crédit Lyonnais, je crois. Donc voilà, c'était un énorme projet immobilier qui devait mettre des immenses immeubles de partout, calfeutrer la vue et tout ça. Bref, ça devait être de quelque chose d'assez horrible. Et les gens du quartier, donc il y a 30 ans, se sont vraiment battus en faisant des manifestations, ils ont mis des énormes banderoles. Dans tout le quartier, ils ont bloqué les chantiers et tout ça. Et donc c'est voilà, il y a déjà un antécédent sur ce terrain.
D'accord. Et alors du coup maintenant, pour vous rejoindre ou soutenir, qu'est-ce qui se passe?
Alors il y a plein de choses à faire. Donc on fait circuler une pétition. Donc on a fait, on va dire, une première sommation à la mairie ce matin en allant remettre les signatures qu'on avait. Donc on a obtenu à peu près de 3000 signatures, donc c'est plus que le nombre de voix que Gérard Collomb a eu dans le premier arrondissement, donc on trouvait que c'était bien symbolique de remettre la pétition à ce moment-là. Donc c'est pas pour autant qu'on a terminé la pétition, vous pouvez toujours la signer et puis on ira sûrement la redéposer quand il y aura plus de signatures. Donc voilà, c'est une pétition que vous pouvez, dont vous pouvez trouver le lien sur notre site ou sur notre page Facebook. Donc il vous suffit de taper la ruche de Croix-Rousse et vous tomberez soit sur notre site, soit sur notre page Facebook. Voilà. Donc il y a la pétition et il y a quelques dates qui viennent. Donc déjà le 27 avril, lundi 27 avril, donc à 15h a lieu le conseil municipal.
Pardon, je rectifie, c'est à 14h le rendez-vous, même si le conseil municipal est effectivement à 15h. Pardon.
D'accord. Alors, donc lundi 27 avril, on va soutenir l'internat Favre, donc qui se réunit devant le conseil municipal, devant la mairie, à 14h. Donc on y sera aussi avec le collectif d'épandards qui gère le jardin et l'association de la ruche de Croix-Rousse. Donc,
Et l'internat Favre, c'est quoi en deux mots ?
Alors l'internat Favre, c'est le dernier internat de Lyon qui hébergeait donc des jeunes en difficulté familiale et difficulté financière qui ne pouvaient pas, s'ils n'avaient pas cet internat. Je suis pas très calé sur le sujet, donc je fais un résumé rapide.
Oui,
et donc la ville de Lyon veut le fermer, donc tous ces jeunes ne sauront plus où aller. Et il y a sûrement un projet d'hôtel de luxe ou ce genre de conneries derrière pour l'internat Favre.
Ok.
Voilà, donc on va rejoindre l'internat Favre ce 27 à 14h devant la mairie. Et donc comme la mairie a fait un abordage sur le jardin en expulsant la moitié, donc c'est ce qu'ont titré certains articles qui sont sortis ont dit que la mairie avait fait un abordage. Donc là, le collectif de voisins appelle à un contre-abordage sur l'hôtel de ville le 27 à 14h. Donc en venant déguisé en pirate avec des cordes, des grappins, des échelles. Et on va voir ce qui va se passer. Donc il y a le 27. On organise aussi un gros événement de soutien, donc le 30 avril, place Colbert, à partir de 13h. Donc de 13h à 18h, il y aura un village associatif sur la place, donc avec des associations qui bossent dans le champ du développement de l'écologie, de la démocratie participative, etc. Quelques journaux indépendants, des associations aussi qui bossent sur la monnaie locale, donc la gonnette ou le sel, etc. Et donc le soir, donc le 30 au soir, des concerts, place Colbert, avec donc une bonne programmation musicale assez variée, donc notamment le Bonk, les Fat Bastard Gang Band, Materé Dolorosa, Nadeja, etc. Voilà, donc il y a une grosse programmation, et donc l'événement se finira à minuit. Et donc avec village associatif de 13h à 18h et de 18h à minuit des concerts. Voilà, et donc tout est gratuit. Et c'est pour soutenir l'association.
Et du coup, merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que vous pouvez juste nous citer votre site internet ou votre page Facebook, comme ça les gens peuvent vous rejoindre s'ils veulent ?
Alors la page Facebook, c'est la ruche de Croix-Rousse. Et le site internet, alors je ne me souviens plus de l'adresse.
www.ruche-rencontre au pluriel -culture au pluriel.fr.
Et voilà, et merci beaucoup. Et donc tout ça pour nous rappeler aussi qu'à Lyon, il reste par exemple 25 000 logements vides qui n'attendent que vous et votre pied de biche.
Du coup, on va parler maintenant du génocide arménien, puisqu'il y a eu un rassemblement à 15h aujourd'hui devant le consulat de Turquie. Alors, pourquoi aujourd'hui ? Parce qu'en fait, c'est un peu le triste anniversaire du début du génocide, qui est, donc, ça a eu lieu le samedi 24 avril en 1915. Donc, pour revenir un peu sur ce qui s'est passé, donc, c'est passé à Istanbul, à l'époque capitale de l'Empire ottoman. Et donc 600 notables arméniens sont faits assassiner sur ordre du gouvernement. Donc ça signe le début du génocide, le premier du XXe siècle. Et il va faire environ 1,2 million de victimes dans la population arménienne de l'Empire turc. J'ai un peu de temps, ouais. C'est le lent démantèlement de l'Empire ottoman à l'époque qui va amener au pouvoir les fractions politiques les plus virulentes contre les minorités qui compose cette région à l'époque immense, donc à la fin du 19e siècle. Et c'est au nom d'une idéologie raciste que furent menées deux vagues successives d'attaques violentes contre les Arméniens. Donc tout d'abord entre 1894 et 1896, puis lors de la guerre de 14-18. Donc pour revenir un peu sur pourquoi il y a encore des mouvements là-dessus, en fait personne conteste ces massacres qui ont fait plus d'un million de morts. Mais c'est plutôt la contestation par rapport au fait qu'il y a encore des gens qui nient le fait qu'il y a eu une planification et l'objectif d'éliminer tous les Arméniens, donc qui nient en fait la notion de génocide. Et il existe aussi un désaccord sur le nombre de victimes. Donc voilà, et en fait il y a pas mal d'historiens qui sont un peu penchés sur la question. Et par exemple, on a retrouvé en fait des échanges de télégrammes durant la Première Guerre mondiale, donc je vous cite le contenu des télégrammes. Donc le gouvernement a décidé de détruire tous les Arméniens résidant en Turquie. Il faut mettre fin à leur existence. Aussi criminelles que soient les mesures à prendre, il ne faut tenir compte ni de l'âge ni du sexe. Les scrupules de conscience n'ont pas leur place ici. Ou encore, il a été précédemment communiqué que le gouvernement a décidé d'exterminer entièrement les Arméniens habitant en Turquie. Ceux qui s'opposeront à cet ordre ne pourront plus faire partie de l'administration, sans égard pour les femmes, les enfants et les infirmes. Si tragiques que puissent être les moyens d'extermination, sans écouter les sentiments de la conscience, il faut mettre fin à leur existence. Donc voilà, donc bon, c'est un peu triste, et du coup c'est non mais je veux dire du coup ce génocide a été un peu comparé aussi à ce qui s'est passé donc pendant la guerre suivante avec le régime nazi qui a priori mis en pratique ces genres de choses aussi pour l'extermination des juifs. Donc voilà, ça c'était aujourd'hui à 15h. Et a priori, il y avait pas mal de monde, plusieurs milliers de personnes, selon nos informations. Donc voilà. Du coup, on enchaîne sur. On termine par l'agenda.
Bah oui, carrément, vas-y.
Donc voilà. Alors, ce week-end, enfin samedi, le CSAO propose donc une cantine à prix libre, donc le midi. Donc c'est tous les samedis et c'est aussi les mercredis. Et donc les bénéfices de ces trucs de soutien, donc le mercredi servent au fonctionnement du lieu et ceux du samedi en soutien aux luttes qui sont définies chaque semaine avant le repas. Donc voilà, donc c'est à partir de 12h jusqu'à 15h, c'est prix libre, c'est quartier Maisonneuve au fond de la rue Cyrano. Donc voilà. Et samedi aussi, il y a une rencontre débat à la Griffe autour de la brochure Révolution bourgeoise et lutte de classe en France entre 1789 et 1799 avec Sandra, son auteur. Donc c'est à 15h ça, et à la Griffe, donc 5 rue Sébastien Griffe. Voilà. Ensuite, peut-être lire un peu.
Ensuite, lundi 27 avril, alors comme lundi dernier, il y a une nouvelle permanence juridique de soutien aux personnes sans papier qui a ouvert, donc qui aura lieu tous les lundis maintenant à partir de 18h30 jusqu'à 21h à la Lutine. Alors, la Lutine, c'est un local qui se trouve au 91 rue Montesquieu dans le 7e à Lyon. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous connaissez des personnes qui n'ont pas de papier, qui ont des questions pour leur démarche juridique, qui ont besoin d'avocats, enfin là, c'est pas des avocats qui font la permanence, mais qui vont vous donner des conseils juridiques. Donc vous pouvez faire passer le mot. Voilà, c'est pour tout ce qui est procédure, droit des étrangers et tout ça.
Il y a un autre truc ce jour-là aussi. Donc ça se passe aussi au CSAO. Donc c'est un truc qui a lieu tous les lundis soirs. Donc c'est la bobine vénère. Et donc là, le film qui sera projeté, ça sera Xazard Drôme, Les Routes Perdues. Donc ça, en gros, ça raconte la naissance d'un bidonville aux portes de Paris jusqu'à ce que surviennent un matin l'expulsion et la résistance. Donc c'est un film d'Aude Léa Rapin et d'Adria Selbert. Donc il s'immisce dans le quotidien de ces familles roms échouées dans des baraques de fortune pour avoir cru trouver en France une vie meilleure. Donc ça, c'est au CSA. Donc pareil, donc la même adresse que tout à l'heure, quartier Maisonneuve, au fond de la rue Cyrano. Et donc c'est à 20h et c'est prix libre. Voilà. Ensuite, le mardi 28 et le mercredi 29 avril, il y a le réseau des géographes libertaires de Lyon qui organise des journées d'études ouvertes à toutes et tous. Donc mardi et mercredi, autour du thème les outils de géographes. Donc en fait, il y a des questionnements actuellement assez forts pour les géographes quant aux nouvelles données produites, autant en termes de propriété, donc à qui appartiennent-elles, que d'utilisation, qui peut les utiliser, etc. Mais aussi d'objectifs poursuivis, qui, à quoi elles peuvent-elles servir. Donc, par exemple, on a un cas concret à Lyon qui a utilisé ces outils de cartographie avec le sous-surveillance.net qui a mis en place une carte collaborative pour repérer les caméras de vidéosurveillance. Donc ça, c'est mercredi 28 et mardi 28 et mercredi 29 à la Maison de la Jeunesse et de la Culture à Jean Massé. Donc voilà, de 9h à 17h. Et ensuite, le mardi 28 avril, on vous invite à aller devant le tribunal de Poitiers pour donc à 15h. Pour
rien que ça. T'es chômeur, toi, ça se voit.
Oh, et oh. Pour soutenir Christine, donc Christine Ribailly, donc détenue à la prison de Strasbourg, qui sera transférée au tribunal de Poitiers pour y répondre d'incidents survenus donc à l'automne 2014 quand elle était incarcérée à Vivonne. Donc pour rappeler vite fait, elle s'était débattue lors de fouilles et autres provocations de la part des surveillants de la pénitentiaire. Et donc en fait, elle est coupable, en gros, d'avoir refusé d'encaisser sans broncher et de ne pas s'être écrasée. Et donc elle comparaîtra ce 20.